thème de mon message ce matin, c'est la puissance du pardon. Alors, ça tombe bien, on a une occasion de pardonner à l'Argentine. Mais ce n'était pas mon premier propos au départ. J'ai trouvé qu'ils étaient très, très courtois, les Argentins. Ils ont eu le triomphe modeste parce qu'ils m'ont laissé dormir. Hein. J'habite au centre-ville et chaque victoire de chaque pays, on a droit au défilé des klaxons. Donc la période, cette période-là, ce n'est pas celle, une période très reposante. Voilà, alors, que Dieu nous donne un cœur ouvert pour l'entendre au-delà de ce que moi je suis capable de communiquer dans les pensées de Pascal, 1679. C'est vieux, hein? Et le docteur parla encore un quart d'heure après qu'il eut tout dit, tant il aimait dire. J'espère que je ne vais pas lui ressembler, ce docteur-là. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. C'est dans la prière du Notre Père. Moi, je trouve qu'on ne la prie pas assez souvent. Quelquefois, c'est un petit peu en réaction face à la religiosité. Peut-être en tant qu'enfant, on l'a récité comme une routine vide de sens. Mais Jésus nous a quand même dit, lorsque vous priez, dites. Il n'a pas dit à Pâques ou à Nouvel An, dites notre Père. Hein, il a dit, lorsque vous priez. Et j'espère que vous priez souvent. Donc, nous devrions prier souvent cette prière. Parce qu'elle est complète. Elle contient tout. Et puis, le contexte de ce Notre Père, c'est une prière, au départ, c'est une prière juive. Jésus l'a enseignée à un auditoire juif. Et les racines de cette prière sont dans le Premier Testament, puisque à ce moment-là, le second n'existait pas. Il était en train de s'écrire. On trouve la dimension du Notre Père, déjà dans le Deutéronome 32, ou Ésaïe 63. Dieu n'est-il pas notre Père, dit le texte. Et puis la notion de la sainteté, que ton nom soit sanctifié, on le trouve dans l'ensemble de la parole de Dieu, et ça a commencé par les 10 commandements, Exode chapitre 20. Que ton règne vienne, le royaume de Dieu. Cette notion du royaume de Dieu, elle n'est pas venue avec Jean-Baptiste et Jésus. Il y avait cette attente du royaume de Dieu déjà après l'exil et le retour. Daniel 2, 44 nous dit « Dans ces temps-là, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. » Cette notion du royaume de Dieu démarre déjà dans le Premier Testament. Le pain, on en a parlé, est présent dans toute la Bible. D'ailleurs, quand Abigail Barreau nous avait fait un cours sur le pain, elle nous a bien dit que la première dimension, mention du pain se trouve dans la Bible et c'est ce qu'on en enseigne dans les écoles de boulangerie. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Le texte qui nous intéresse aujourd'hui de cette prière, c'est « Pardonne-nous nos offenses ». Et à nouveau, on le trouve déjà dans le Premier Testament. Lévitique 16, 29. C'est ici une loi perpétuelle. Le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Et puis, c'est ce qu'on appelle aussi, à un moment donné, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. En ce jour-là, les Juifs, ils vont vers la mer, font des petits papiers, des petits bateaux, ils écrivent leurs péchés dessus et puis ils les envoient à l'océan et ils demandent au Seigneur de les pardonner. Mais ils font aussi un petit examen de conscience pour savoir si dans l'année écoulée, il y avait une relation qui s'est détériorée. Ils prennent l'occasion de la restaurer, de téléphoner à quelqu'un, d'envoyer une lettre, de demander pardon. Je trouve que c'est très beau. Nous devrions les imiter de temps en temps. La notion du pardon est liée à celle de l'expiation et du péché. 1 Jean 1 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Quelquefois, les gens se sentent tellement indignes de communier au corps et au sang de Christ qui ne viennent pas à la table de la Sainte Cène tellement ils se sentent indignes. Mais vaut 10 fois mieux confesser ses péchés, venir devant Dieu et participer à la scène avec la communauté. Dans la première alliance, il y avait des sacrifices d'animaux, un taureau, une chèvre, des tourterelles pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de richesses. Mais dans chaque cas, le sang de l'animal servait à faire l'expiation, donc de payer à la place du coupable. Alors, il y a beaucoup de détails dans le livre de Lévitique et je suis reconnaissant qu'on n'ait plus besoin de faire aujourd'hui des sacrifices d'animaux pour être pardonné. Mais il y a eu un seul sacrifice qui les remplace tous. Mais comme on a accusé les chrétiens d'avoir une religion sanguinaire, certains ont voulu effacer la notion du sacrifice et du sang du christianisme. Sans crucifixion, sans sang versé, il n'y a pas de pardon. Alors c'est une notion difficile à comprendre pour l'homme moderne qui n'a aucune connaissance biblique. Mais les tribus primitives, il ne reste plus beaucoup aujourd'hui, c'est enraciné dans leur histoire. Et ils sont bien mieux informés que les occidentaux, instruits et hyper connectés. Sans sacrifice, sans verset, crucifixion, il n'y a pas non plus de résurrection, de salut ou de vie éternelle. On n'a plus qu'une morale vidée de sens et de substance. La bonne nouvelle, c'est que ce sacrifice, celui de Jésus, a été fait une fois pour toutes. Hébreux 9, 24-26, car Christ est entré dans un sanctuaire qui n'a pas été fait par la main de l'homme en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel lui-même afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir plusieurs fois qu'il est entré comme souverain sacrificateur, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. À la fin des siècles, je saute un peu, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il a paru une seule fois. Donc on n'a plus besoin de faire ce sacrifice, mais de s'approprier pour nos propres vies la puissance, l'autorité et l'action de ce sacrifice. Un peu de vocabulaire. Le mot « kippour » vient de Raphar, qui est traduit en français par expier, apaiser, racheter, enduire, pardonner. Et il y a quelquefois 12 possibilités de traduction pour un mot. Et moi, j'admire les traducteurs de la Bible qui ont eu à se casser la tête entre les choix multiples pour traduire un mot dans des langues originales pour nous les retransmettre en français. Et quelquefois, il y a jusqu'à 40 mots possibles pour traduire un seul mot hébreu. On retrouve ce mot 102 fois dans la Bible. Et il a la signification de couvrir, purger, réconcilier. Et on retrouve un autre mot pour pardon, c'est salar qui a donné slira. C'est un mot qu'on utilise quand on bouscule quelqu'un dans l'autobus en Israël. On dit slira, ça veut dire pardon. On le trouve dans la Bible. On le trouve 46 fois. Dans le Nouveau Testament aussi, on a un autre mot pour pardon, rémission des péchés, délivrance. C'est aphésis, on le trouve 32 fois. Il signifie littéralement libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de ce mot. Christ est venu nous libérer de l'emprisonnement. Et quelquefois, nous sommes nos propres bourreaux et nous avons construit nos propres prisons par nos manques de pardon. Matthieu 5, 23-24 nous dit « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes là que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ce texte met l'accent sur les deux niveaux de relation et ça rejoint tout l'enseignement de la parole de Dieu. Pour résumer la Bible, ou le commandement le plus important, Matthieu 12, verset 30, lorsqu'un pharisien demande à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Je l'ai mémorisé par cœur, ça fait kapf. Et puis, et voilà le second commandement qui lui est égal, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ça ne sert à rien de venir au culte le dimanche matin et de faire des magnifiques prières, de participer à la louange, si je suis en pétard avec mon voisin. Ça ne sert à rien. Aux yeux de Dieu, c'est absolument nul. C'est pour ça que Jésus nous dit, va d'abord te réconcilier. Et s'il y a quelque chose dans nos cœurs, avec un frère, un voisin, un collègue de travail, un patron, quelqu'un dans la famille, vaut 10 fois mieux lui envoyer un petit mot ou lui lancer un coup de fil que de venir au culte le dimanche matin, d'élever les mains et de faire des grandes déclarations pieuses. Quoi. Vaut 10 fois mieux aller se réconcilier. Alors il y a plusieurs aspects du pardon. D'abord, la faute envers Dieu. L'idolâtrie est souvent dénoncée dans la parole de Dieu. Et c'est quand on donne à des choses ou à des personnes une place, la place que Dieu seul devrait avoir. On voit dans le récit du fils prodigue, Luc chapitre 15, que le fils, il veut se débarrasser du père. Moi, je suis fatigué de ce père qui est toujours sur mon dos et pour lequel je travaille depuis tant d'années. Après tout, je suis l'héritier de la maison. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Comment je dois travailler? Comment je dois organiser ma vie? Je vais quitter cette baraque, demander mon héritage et vivre ma vie comme je veux. Et ce qui est incroyable dans ce récit, c'est que le père lui donne sa part d'héritage. Il lui donne. Mais quand il est au fond du trou, en train de ramer, après qu'il ait tout claqué avec les prostituées, il repense à la maison de son père. Et le texte nous dit, il entra en lui-même. Et ça, c'est le premier pas pour une démarche de pardon. C'est d'entrer en soi-même. Et il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et pour la majorité d'entre nous qui connaissons bien ce passage, on sait qu'il n'a même pas eu le temps d'aller au bout de sa phrase. Et que le Père s'est jeté sur lui pour l'accueillir. Il n'a même pas eu le temps de dire sa phrase, son petit discours qu'il a certainement répété pour ne pas trop bafouiller quand il serait devant lui. Il n'a même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Parce que le Père était déjà prêt à lui pardonner avant qu'il revienne à la maison. Le roi David parle de l'expérience du pardon après des fautes graves. Souvent, on élève David, hein, le grand compositeur, merveilleux musicien. En plus de ça, la Bible nous dit qu'il était beau. Est-ce qu'il était Mister Israël, top modèle? Il avait tout, tout pour lui. Et pourtant, il s'est planté. Il aimait Dieu de tout son cœur et il s'est planté. Et le texte nous dit, hein, l'introduction du psaume 51 est assez claire. La Bible, c'est un livre incroyable parce qu'elle raconte les péchés des rois d'Israël. Elle raconte les péchés du peuple, mais aussi le pardon de Dieu. Et en introduction, il nous est dit, psaume que David a écrit lorsqu'il est allé vers Bathsheba. Et ce n'était pas pour regarder une série Netflix ensemble, quoi. Il dit au psaume 32, « Heureux l'homme à qui la transgression est remise. » Et je me demande dans ma vie peut-être, ou peut-être dans la vôtre aussi, si quelquefois il ne manque pas une petite dimension de joie parce que je n'ai pas suffisamment demandé pardon pour mes péchés. Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ça, c'est psaume 51. Même si d'autres personnes ont été affectées, hein, le mari de Bathsheba, Uri, Lui, il a payé le prix fort puisqu'il a été tué dans la bataille. Parce que David en avait donné l'ordre. D'abord, David reconnaît que c'est d'abord envers Dieu qu'il a péché. Certainement qu'il y avait une forme d'aveuglement, parce qu'il a fallu attendre que le prophète Nathan vienne vers lui pour dénoncer son adultère. Souvenez de ce passage. Nathan vient vers lui et courageusement ce prophète, peut-être au prix de sa tête, va trouver le roi David et il lui raconte cette histoire. Un homme avait une brebis, une seule, elle mangeait dans sa main, elle dormait dans son lit. C'était pratiquement tout ce qu'il avait. Et puis il y avait un riche à côté. Et ce riche, il avait un troupeau énorme. Et quand un visiteur est venu chez ce riche, il est allé se saisir de cette brebis qu'avait le pauvre. Et David sort de ses gonds. Il dit, cet homme mérite la mort. Et le prophète Nathan le regarde dans les yeux. En tout cas, moi, je l'imagine le regarder dans les yeux, même si le texte ne le dit pas. Il dit, tuez cet homme. Et là, plutôt que de se mettre en colère contre le prophète, quelquefois quand on n'aime pas les paroles qui dénoncent notre péché, on se met en colère contre son messager. Et là, plutôt que de se mettre en colère contre le prophète, David se repent. Il y a des conséquences, mais il s'est repenti. Et il a pu écrire dans ces deux psaumes ces merveilleuses paroles qui nous rejoignent tous à un moment donné ou un autre dans nos vies. Alors quelquefois, dénoncer le péché, c'est pas facile. Il faut d'abord s'assurer que dans notre propre vie, on ait fait le ménage, bien sûr. Jean-Baptiste, par exemple, il a prié ça au prix de sa tête. Il a dénoncé le péché du roi Hérode. Il lui a dit, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Je ne sais pas quel arrangement bizarre ils ont eu entre son frère et lui pour qu'il puisse récupérer la femme, sa femme. Ils avaient des mœurs bizarres. Et la dénonciation du péché dérange autrefois comme aujourd'hui. Ensuite, il y a la faute envers l'autre, le frère, la sœur, proche ou lointain. C'est plus facile de dire au frère éloigné, je me suis planté, excuse-moi. Mais au frère proche, ou à la sœur proche, surtout quand c'est dans notre propre famille. C'est un peu plus difficile. Pardonne-moi, je me suis énervé pour rien. Mais qu'est-ce que c'est puissant? Combien de divorces, de déchireurs on aurait pu éviter si ça devenait un style de vie? Et quand on laisse s'accumuler une tonne de petites rancunes, ça finit par faire une déflagration atomique. Après, il y a la faute envers nous. Il y a des pardons qui ne sont pas faciles à accorder. Et on parle d'un chemin de pardon. Je pense à certaines situations dans des camps où on a pu accompagner quelquefois des personnes sur le chemin du pardon. Je pense à cette femme d'une cinquantaine d'années qui a finalement arrivé à dire après tout un chemin, je pardonne à mon père le mal et l'abus que j'ai subi à cause de sa violence et de son alcoolisme. J'ai vu à la télé aussi un couple dont le bébé avait été enlevé à la maternité, c'était en France il y a quelques années en arrière, et ils sont passés à l'écran, et ils ont dit, nous pardonnons à la personne qui a enlevé notre enfant. Et inversement, certaines réactions suite à l'incendie dramatique de Grand Montana, des personnes qui disaient « on leur pardonnera jamais ». Et déjà, on pouvait voir sur leur visage les rides du non-pardon. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça se fait en claquement de doigts. Mais le non-pardon nous enferme dans des prisons où nous devenons nos propres bourreaux. Et puis, le pardon, la faute envers soi est quelquefois difficile à assumer, à accepter. Comment moi, un gars si bien, j'ai pu tomber aussi bas? Comment j'ai pu être aussi lamentable? Et il faut quelquefois du temps pour se pardonner soi-même. Mais Dieu est un Dieu de pardon. La faute envers nous. Il y a plusieurs années, c'était 1975. Festo Kivengere, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, évêque anglican d'Ouganda, sous le règne du tout-puissant dictateur Idi Amin. Il avait une fosse au crocodile dans laquelle il balançait ses opposants. Il faisait pas bon vivre en Ouganda en tant qu'opposant à Idi Amin à cette époque-là. Et lui, tout évêque qu'il était, homme respecté, homme de Dieu respecté, il a dû fuir son pays pour pas qu'on le balance dans la fosse à crocodile. Il a écrit un livre, en anglais c'est « I love Idi Amin »,« J'aime Idi Amin ». Et il témoignait du pardon alors que son église était persécutée. Et puis, il y a aussi les héritages spirituels. La Bible nous parle de ces héritages, bons ou mauvais. Exode 34,7 nous parle des malédictions jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pour moi, elles ne sont pas automatiques. Mais il y a des signes quand même dans des cycles qui se répètent. Des cycles qu'on voit se reproduire avec les mêmes travers de père en fils, de mère en fille. On voit des dynasties d'alcooliques, de suicides, de colériques. Là, il y a des malédictions à briser. Avec mes frères Michel et Jean-Pierre et ma sœur Béate, nous sommes la première génération de chrétiens engagés. On est 5 frères et sœurs de la même mère et de 4 pères différents. Le parcours, il n'a pas été simple pour le démarrage. Mais quand on s'est donné à Jésus, on a démarré un nouveau cycle. Un nouveau cycle de bénédiction sur nos enfants et maintenant sur nos petits-enfants. Et j'espère le voir aussi, nos arrière-petits-enfants. Nous ne sommes pas condamnés à reproduire les péchés de nos pères. Avec mon frère Michel, on était les premiers convertis. Lui, il était pasteur d'une église pentecôtiste à Strasbourg pendant des années. Dieu le bénisse. Alléluia. C'est lui qui m'a entraîné sur le chemin de la foi. Et ensuite, il y a notre demi-sœur Béate qui nous a suivis sur le chemin. Et il y a une dizaine d'années, mon petit frère Jean-Pierre, lui, c'est tout un poème, quoi. Lui, il était parti pour reproduire ce cycle de malédiction. Il était déjà avec sa troisième femme, sans compter toutes celles qu'il y a eues à côté. Je ne trahis pas un secret, tout le monde le sait. Et sa troisième femme avait préparé sa valise pour le mettre à la maison parce que ça n'allait plus. Et c'est là que ma demi-sœur est intervenue, elle est venue. Elle a fait une petite prière, toute simple, et lui s'est écroulé. Il a demandé pardon à sa femme, il a demandé pardon à ses enfants. Pendant des mois et des mois, il était dans la repentance. Et puis il a changé de vie. Maintenant, nous sommes 4 à jouer de la guitare, à conduire la louange et à prêcher et à témoigner. On peut démarrer un nouveau cycle par la grâce de Dieu, par le pardon qu'il nous accorde. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Certains d'entre vous avaient peut-être lu le livre de Corrie ten Boom, « Victoire à Ravensbrück ». Corrie ten Boom est cette femme anglaise, c'était toute une famille, hollandaise, pardon, merci. Hollandaise, et ils avaient accueilli pendant la Seconde Guerre mondiale les Juifs qui venaient se réfugier dans leur maison et ils avaient trafiqué une chambre un peu spéciale où ils pouvaient cacher les Juifs pendant qu'ils faisaient des rafles. Et ils ont été dénoncés par des voisins et ils ont fait la Gestapo a fait une descente et ils les ont embarqués, ils ont embarqué toute la famille, ils ont fouillé toute la maison et ils n'ont pas trouvé les personnes qui étaient cachées dans leur cachette et la nuit ils ont pu s'échapper. Il y a même un film qui a été tourné là-dessus. Et ils ont été enfermés en camp de concentration. Son père y est mort. Et sa mère et sa sœur, pardon, Betsy, est morte en prison. Après la guerre, elle a prêché le pardon. D'abord en Allemagne, puis dans 60 pays différents. J'étais une fois dans une église en Alsace. Et dans le groupe de jeunes que j'accompagnais pour le culte, on avait préparé la louange, quelques témoignages. Il y a un des jeunes qui me dit « J'aimerais témoigner ce matin. » J'ai dit « Oui, c'est bien, il y a la place pour des témoignages. » Il me dit « Mais je ne suis pas sûr comment ça va être pris. » J'ai dit « Vas-y. » Ce jeune se met au micro. Il s'appelait Karim. Comme il a témoigné en public, je peux dire son nom. Et il raconte la violence qu'il a subie dans sa famille. Il se faisait tabasser par son père régulièrement, mais ceux qui l'atteignaient, le touchaient et le blessaient le plus profondément, c'est quand il voyait son père frapper sa mère. Et en plein culte, alors que personne ne s'y attendait, dans une église réformée en Alsace, il dit un jour, on s'est battu avec mon père, il frappait ma mère, je suis intervenu, on s'est battu avec mon père et je l'ai tué. Vous voyez la déflagration que ça peut faire dans un culte. Il s'est retrouvé à 14 ans en prison, on lui a mis des menottes. Et après, il y a eu tout un parcours, parce qu'il avait des circonstances atténuantes. On l'a mis dans une famille d'accueil, une famille chrétienne. Et c'est là qu'il a découvert Dieu et la dimension du pardon. Tout peut être pardonné. Quelquefois, il y a des conséquences, bien sûr. On ne peut pas faire revenir à la vie quelqu'un qui est décédé. Mais tout peut être pardonné. Parce que Dieu est un Dieu de pardon. Si nous savons nous tourner vers lui et simplement aller vers la source du pardon. Le Notre Père ajoute cette dimension. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Si nous voulons être au bénéfice du pardon, il y a cette invitation à être les premiers à accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 18, 21 à 35, alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que sa dette fut acquittée. Le serviteur se jeta en terre, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et ce maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Cette parabole s'appelle aussi la parabole du serviteur impitoyable. Avec ce titre, l'accent est mis sur la mauvaise attitude de ce serviteur. Mais je pense qu'il serait beaucoup plus juste de mettre l'accent sur l'immense compassion de Dieu plutôt que sur la misérable ingratitude de ce mauvais serviteur. On prie. Prenons juste quelques instants de silence devant Dieu. Quand on arrive en fin de vie, souvent une question qu'on se pose, c'est est-ce que mes relations sont en clair avec ma famille, mes amis? Est-ce que j'ai pardonné tout ce que j'ai pardonné? J'ai posé cette question à ma belle-mère dans un moment seul à seul, elle devait avoir 92 ans. Je lui ai dit, mamie, est-ce que vous avez pardonné à tous ceux qui vous ont offensé? Elle s'est arrêtée quelques secondes et elle m'a regardé avec un sourire en me disant, oui, je crois que j'ai pardonné. Elle est partie en paix à l'âge de 98 ans. On n'est pas tous dans ce registre-là de nos vies, mais on n'a pas besoin d'attendre 92 ans pour faire le bilan et de mettre nos relations au clair. Est-ce que j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé? Et puis, est-ce que je me suis pardonné à moi-même? Peut-être selon le degré de perfectionnisme et les exigences qu'on met sur nos propres vies, et quelquefois déçus de ne pas avoir une vie parfaite, une vie à la hauteur du standard qu'on s'était fixé. Mais est-ce que je me suis pardonné moi-même? Et puis, est-ce qu'il y a des gens à qui je dois pardonner encore aujourd'hui? Peut-être que je l'ai déjà fait une première fois. Mais alors que j'ai parlé ce matin, il y a quelque chose qui revient en lumière. Et on peut simplement remettre les choses devant le Seigneur. À nouveau, ce n'est pas en un claquement de doigts que les choses se font. C'est quelquefois un chemin. Mais Jésus qui a pris tous nos péchés sur la croix est aussi celui qui nous invite à donner à notre tour le pardon. Seigneur, tu vois nos cœurs, nous sommes devant toi. Peut-être dans cette saison, nous avons un peu plus de temps pour méditer, réfléchir, prier sur nos vies, envisager la rentrée, l'avenir. Je prie, Seigneur, qu'on puisse remettre les compteurs à zéro avec toi. Merci parce que ton Saint-Esprit est un esprit de lumière qui n'est pas là pour nous accuser, mais pour permettre que vienne à la lumière là où ton pardon doit s'étendre. Je veux proclamer que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Toi, le Dieu du pardon, accompagne-nous. Amen.